Aujourd'hui, on s'arrête sur un mot en apparence banal. Le mot « compromis ». Un mot dont on est assez fier en Belgique, ce serait même notre spécialité, celle du compromis à la belge.
On est même assez fier de ce compromis à la belge.
Caroline Sagesser, historienne, chercheuse au Centre de Recherche et d'Information Sociopolitique.
Même si ces derniers temps, on a plutôt tendance à dire également qu'il pourrait être en panne. Et moi, je me suis toujours interrogé sur cette spécificité supposée du compromis à la belge. J'ai l'impression que dans toutes les démocraties qui connaissent un scrutin proportionnel, il y a forcément des compromis à faire pour nouer des accords politiques, pour constituer des majorités. Alors c'est vrai qu'on a quelques compromis fondateurs en Belgique, le compromis déjà qui préside à la naissance de la Belgique entre les catholiques et les libéraux en 1831. Plus récemment, on peut penser au pacte scolaire, on peut penser à toutes les réformes de l'État, on peut penser aussi au développement de la concertation sociale en Belgique. Et c'est vrai que pendant longtemps, on a eu l'impression qu'on avait une façon de résoudre les conflits sociaux qui étaient particulièrement efficaces en Belgique, même si là aussi c'est un peu en panne depuis cette dernières années, mais enfin je ne suis pas convaincu que ce soit vraiment une grande spécificité belge et je ne suis pas non plus convaincu par l'efficacité de ce compromis.
Première remarque donc de Caroline Sagesser, le compromis n'est pas notre spécialité et ensuite il n'est pas toujours efficace. On commence à toucher ici au problème du mot compromis. Il porte en lui un sens positif, au sens de pacification, on trouve des solutions, mais aussi un sens négatif, au sens de compromission. Quand on dit qu'un projet est compromis, eh bien, c'est qu'il est mal embarqué. Revenons donc à la nature du compromis en politique.
Alors, compromis a un aspect négatif parce qu'il s'agit toujours de renoncer à quelque chose.
Philippe Van Parijs est philosophe et professeur à l'UCL.
Alors, et de renoncer, en fait, pas seulement à quelque chose qu'on aimerait bien avoir, mais à quelque chose à quoi on estime avoir droit. Alors, il y a des cas où on renonce à une partie de ce qu'on souhaiterait avoir, mais sans que ce puisse être interprété comme un compromis. Par exemple, s'il s'agit de partager, j'achète deux éclairs au chocolat, on est à quatre et on dit, on divise chacun des deux éclairs en deux, on se les partage et tout le monde trouve que c'est équitable. Il n'y a pas véritablement de compromis, un consensus, il y a un accord sur la chose sans que ce soit un compromis. Là où intervient le compromis, c'est au moment où on estime avoir droit à quelque chose. Pas seulement qu'on le désire, mais on estime y avoir droit. Et les deux parties estiment y avoir droit. Et puis, il faut concéder une part de ce à quoi on a droit.
Le compromis est donc un accord d'une nature particulière. C'est celui où l'on renonce à ce que l'on considère comme légitime, où il y a une forme d'abandon, mais un abandon qui paraît plus intéressant que la poursuite du conflit. Ça a l'air un peu bête, dit comme ça, mais pourtant, ça veut dire que derrière le compromis, il y a toujours un conflit. Le compromis n'est pas le contraire du conflit, c'est le conflit pacifié. C'est d'ailleurs pour ça que même des penseurs marxistes, adeptes de la lutte des classes, peuvent s'inscrire dans des compromis.
Ce sont des marxistes qui ont porté, en France et en Belgique, les premiers, la création de la sécurité sociale. C'est des communistes qui étaient au gouvernement à cette époque en Belgique et en France.
Xavier Dupré, économiste et penseur marxiste.
Donc on est quand même là dans quelque chose qui n'est pas dans l'institution du Soviet suprême, mais bien dans un aménagement de rapports de classe avec un partage de la valeur ajoutée via la cotisation de sécurité sociale. Donc non seulement les marxistes pensent au compromis, mais surtout ils savent l'appliquer. Qui dit conflictualité dit nécessairement à un moment donné nécessité de donner des perspectives et des débouchés à cette conflictualité. La plupart du temps, il faut pouvoir dégager un compromis après une phase de conflictualité.
Donc le compromis, c'est pas l'antithèse du conflit.
Non, c'est même...
C'est l'aboutissement.
C'est l'aboutissement, et en règle générale, c'est un aboutissement partiel et temporaire, puisqu'il y aura un nouveau conflit qui prendra le dessus et qui s'imposera à l'agenda et qui donnera lieu à de nouvelles formes, à de nouveaux contenus de compromis.
Bien. Le compromis, ce n'est donc pas le consensus ou l'unité. C'est aussi la reconnaissance de la dimension conflictuelle de notre vie politique. Voilà pourquoi le compromis véhicule une dimension d'inachevé ou de faiblesse. Et pourtant, le compromis, en assumant cette dimension de faiblesse, semble bien faire partie intégrante de la démocratie.
Dans une démocratie qu'on dit délibérative.
Justine Lacroix, professeure d'histoire de la pensée politique
à l'ULB.
C'est quoi une démocratie délibérative ? Eh bien, c'est l'idée que la délibération, donc la délibération, c'est quoi ? C'est la confrontation d'idées contradictoires, va permettre de faire émerger une solution qui puisse convenir à tous. Il n'y a pas de démocratie sans possibilité de faire entendre des points de vue opposés.
Sans débat.
Alors, si effectivement compromis renvoie à cette capacité à entendre le point de vue de l'autre et donc à transformer ses propres positions au départ, je dirais oui, il n'y a pas de démocratie délibérative qui vaille sans compromis. Et d'ailleurs, c'est une des grandes difficultés de nos démocraties contemporaines, ça tout le monde le dit, dans l'espace public, c'est ce qu'on appelle la polarisation des opinions, le fait que de plus en plus nous discutons et nous dialoguons avec des gens avec lesquels nous sommes déjà d'accord, notamment dans les réseaux sociaux, où vous êtes dans des communautés de semblables qui pensent plus ou moins, et que donc vous n'êtes pas confronté au point de vue des autres. Le propre, je dirais, pour parler comme Aristote, de l'amitié démocratique, c'est vraiment la capacité à entendre le point de vue de l'autre.
Ce que dit Justine Lacroix ici est décisif. Le compromis est la conséquence naturelle d'une démocratie qui place le conflit au cœur du débat public. Cela veut dire qu'une telle démocratie dite délibérative ne peut fonctionner sans culture du compromis. Ça veut dire qu'elle ne peut fonctionner si les citoyens n'acceptent pas de se mettre à la place de l'autre.
Si un compromis, c'est simplement, je dirais, couper la poire en deux. Chacun amène, voilà, ça c'est ma position, ça, toi c'est ta position, je n'entends pas, mais je te lâche. Et on est dans une sorte de marchandage. Voilà, c'est si on tombe dans une logique de marchandage, où il s'agit juste d'échanger des points les uns contre les autres, sans accepter d'être transformé au cours de la discussion, parce que c'est ça l'idée de la délibération, c'est que c'est pas seulement qu'on va peser ce que chacun est prêt à céder, c'est d'accepter d'être éventuellement susceptible de changer d'avis et d'entendre la part raisonnable qu'il y a dans le point de vue des autres. Et donc on voit que si le compromis se dégrade en marchandage, c'est quelque chose de tout à fait différent.
L'hypothèse ici, c'est que nous assistons à une perte de la culture du compromis. Et pas seulement les élites, les élus, mais aussi nous tous. Dans le débat public, nous éprouvons de plus en plus de difficultés à nous mettre à la place de l'autre, à comprendre ceux qui ne vivent pas ou ne pensent pas comme nous. Et qui dit perte de la culture du compromis, dit perte de la culture démocratique. C'est aussi l'inquiétude de Philippe Van Parijs.
Oui, j'ai une inquiétude et donc je crois qu'il faut faire tout ce qu'il est possible de faire, notamment grâce à des médias publics, pour que les différents points de vue puissent s'écouter mutuellement. Et donc ça, c'est absolument indispensable, évidemment, pour atteindre un consensus, pour parvenir à adopter des politiques qui puissent être perçues comme équitables par chacun. Mais c'est aussi nécessaire, de manière plus modeste, pour parvenir à des compromis qui soient des compromis honorables. Et ça, ça veut dire l'écoute mutuelle. Et ça peut aussi vouloir dire notamment se passer du cordon médiatique pour parvenir à écouter suffisamment les personnes ou les représentants de personnes qui ont des avis très différents des nôtres. Et donc le compartimentage qui se fait de manière automatique en quelque sorte par les algorithmes des médias sociaux, ce compartimentage se fait aussi par une forme de censure qui se fait dans les médias publics. Donc parvenir à se mettre à l'écoute dans le bon climat, dans la bonne atmosphère d'écoute critique, se mettre à l'écoute des points de vue les plus divers qui sont présents dans notre communauté, pour accepter n'importe quoi, mais pour les mettre en discussion et essayer vraiment de les comprendre, de comprendre ce qui les sous-tend, c'est pour moi vraiment un rôle absolument fondamental pour nos médias et pour notre système d'éducation à tous les niveaux, depuis l'école maternelle jusqu'à l'université.
Et voilà, en apparence, si banal, le mot compromis porte en lui une dimension d'effort, de dépassement de soi. Ce compromis exige beaucoup de nous en tant que citoyens. Voilà pourquoi il semble aujourd'hui de plus en plus compliqué à réaliser.